Souvent, face à un bras cassé, par exemple, la radiographie, elle affiche une ligne de fracture super nette, vraiment évidente.
Ouais, le diagnostic médical est tranché, c'est presque binaire en fait.
Exactement, la ligne blanche apparaît sur l'écran, le médecin la pointe du doigt et l'affaire est classée. Mais dès qu'on essaie de passer la nature humaine aux rayons X...
Ah là, ça se complique sérieusement.
C'est ça. Dès qu'on scrute nos dilemmes moraux, ce décalage perpétuel entre savoir ce qui est bien et faire ce qui est bien, la machine s'enraye. Le diagnostic devient infiniment flou.
On se retrouve face à un véritable enchevêtrement de contradictions intérieures.
Et c'est exactement ce qu'on va aborder aujourd'hui. Bienvenue dans cette nouvelle exploration. On va s'attaquer frontalement à cette radiographie de l'âme en s'appuyant sur des sources fascinantes.
Tout à fait. On a entre les mains les notes de conférence très détaillées du docteur Craig Kinner qui décortique un texte antique vraiment monumental.
Et l'épître aux Romains, c'est bien ça?
C'est ça. Plus spécifiquement les chapitres 7 et 8, et l'enjeu de cette plongée dans ces textes, c'est vraiment de comprendre comment un document vieux de 2000 ans aborde la psychologie de nos patients.
Nos limites aussi, non?
Complètement. Nos limites, notre volonté, et cette espèce de quête universelle de transformation intérieure. D'ailleurs, le contexte historique est captivant.
Ah oui, posez-nous un peu le décor. On est où exactement?
On est dans une antiquité en pleine effervescence. C'est un carrefour où les philosophes grecs, les érudits juifs et les premiers penseurs chrétiens débattaient tous très vigoureusement.
De la même chose, en fait.
Voilà, de la meilleure méthode pour maîtriser les pulsions humaines. C'était le grand sujet de l'époque.
Bon, essayons de décortiquer tout ça. Parce que, avant d'entrer dans le vif de ce dilemme moral et de cette bataille pour le contrôle de soi, il faut s'arrêter sur un terme central.
Un terme qui fausse souvent la lecture, oui.
Ouais, le mot « chair ». Parce que dans le langage courant aujourd'hui, ou même sous l'influence de certaines traditions religieuses, on a vite fait de classer le physique, l'enveloppe corporelle, dans la catégorie du mal absolu.
C'est une idée très répandue, cette dichotomie stricte.
Genre, l'esprit est noble et le corps est vil, tu vois? Il y a cette idée reçue que la religion déteste le corps.
Et pourtant, les notes du docteur Kinner insistent lourdement sur cette confusion linguistique. L'auteur antique de notre texte, Paul, navigue en fait entre deux concepts grecs bien distincts.
D'accord, lesquels?
D'un côté, il y a le soma, qui désigne le corps physique en tant que tel, et de l'autre, la sarx, qui est traduite par la chair.
C'est pas la même chose, du coup?
Pas du tout. À cette époque, certains courants de la philosophie grecque et plus tard les gnostiques percevaient effectivement le corps humain comme une prison suffocante.
La fameuse prison de l'âme.
Exactement. Ils utilisaient une formule célèbre, soma sema, qui signifie littéralement « le corps est un tombeau ». L'idéal ultime, c'était que l'âme pure parvienne à s'échapper de cette matière corrompue.
Sauf que l'auteur de l'épître s'inscrit complètement en faux contre cette vision morbide. Venant d'une tradition juive ancrée dans la Genèse, il considère que la création matérielle, le soma, c'est foncièrement bon.
Tout à fait. Le problème se situe au niveau de la sarx, la chair. Nos sources expliquent que ce concept tire ses racines du mot hébreu « bassar ».
Ce qui veut dire ?
Ça ne représente pas un mal démoniaque caché sous notre peau, mais ça symbolise plutôt notre condition mortelle, notre finitude, notre vulnérabilité inhérente.
Ah, ça change toute la lecture du texte, ça. Parce que du coup, être limité ou vulnérable, c'est pas un crime en soi.
Bien sûr que non. Les passions humaines fondamentales, ce sont des mécanismes de survie. La faim garantit qu'on se nourrit. L'instinct de procréation assure la suite de l'espèce. Sans ces pulsions viscérales, l'humanité n'aurait pas survécu à ses premiers hivers.
Donc la tragédie de la chair, elle survient quand exactement?
Uniquement lorsque ces outils de survie dépassent leur fonction initiale et prennent le contrôle total de l'intellect et de la volonté.
J'aime bien utiliser une analogie pour ça. Le corps, au fond, c'est comme un véhicule hyper performant, conçu avec une ingénierie remarquable.
C'est une belle image, ouais. À cause de notre vulnérabilité, de la fatigue.
Voilà. À cause de nos traumatismes ou de nos limites humaines, bam, la conscience lâche le volant. Et ce sont nos réactions primaires qui nous dirigent à toute vitesse vers le premier ravin venu. L'intellect est juste là, sur le siège passager, impuissant.
Et c'est marrant que vous parliez de volant, parce que les philosophes de l'Antiquité, et surtout les stoïciens, étaient obsédés par l'idée de reprendre le contrôle de ce volant.
Ah oui, eux, c'était la discipline absolue.
C'est ça. Il soutenait qu'un entraînement mental rigoureux, une discipline de fer, pouvait désactiver ce fameux pilote automatique et éradiquer totalement les émotions perturbatrices.
Sauf que ça marche pas vraiment comme ça.
Nos sources rapportent une anecdote historique super savoureuse qui illustre bien les failles de cette théorie. Imaginez un bateau en pleine mer pris dans une tempête d'une violence inouïe.
Le genre de tempête où le navire va se briser.
Exactement. Au milieu des marins terrifiés, il y a un célèbre philosophe stoïcien. Le gars a écrit des traités entiers sur l'ataraxie, donc l'absence absolue, trouble de l'âme.
Et comment il réagit face à la tempête ?
Eh bien, les témoins rapportent qu'il est blême, livide, figé par une terreur viscérale, même s'il essaie de ne pas crier. La panique biologique a totalement court-circuité sa philosophie.
La honte pour lui quand même.
C'est clair. Une fois la mer calmée, un autre passager vient le titiller un peu et lui demande de justifier cette réaction. Le philosophe, pour sauver la face, élabore sur le champ une distinction cruciale.
Il invente une excuse en gros.
Un peu, oui. Il affirme qu'il faut séparer la pré-émotion, donc ce frisson instinctif, cette contraction de l'estomac face au danger, de l'émotion cognitive proprement dite.
Celle à laquelle la raison donne son accord.
Voilà. Il concède que la chair réagit en premier, mais il maintient que l'esprit rationnel reprend le dessus juste après.
Ce qui est dingue, c'est que ce gars, juste pour sauver son ego, a posé les bases de ce que la neuropsychologie moderne observe aujourd'hui au millimètre près.
Ah bon ? Comment ça ?
Le circuit de la peur dans le cerveau, il est organisé exactement comme ça. L'amygdale, qui gère notre survie, traite les signaux de menace des millisecondes avant que le cortex préfrontal, qui est notre pensée analytique, ne soit même au courant du problème.
C'est fascinant. D'ailleurs, les sources donnent un exemple très contemporain par rapport à ça. Prenez le bruit soudain d'un feu d'artifice.
Ouais, disons un gros boom.
C'est ça. Pour quelqu'un qui a grandi dans un environnement stable, le sursaut initial de l'amygdale est vite calmé par le cortex préfrontal qui analyse la situation. Il se dit « Ok, c'est juste une fête, pas de danger ».
Mais pour quelqu'un d'autre ?
Pour une personne qui a le statut de réfugié de guerre, par exemple, dont le système nerveux a été reconfiguré par des traumatismes, ce même stimulus auditif déclenche une terreur absolue, irrépressible.
Parce que la biologie devance massivement l'intellect.
Exactement. L'anecdote du philosophe prouve que la simple force de la volonté, l'approche purement cognitive, elle échoue lamentablement face à nos réflexes physiques.
Alors si la philosophie échoue à reprendre le contrôle de ce véhicule, pourquoi ne pas utiliser un bon vieux manuel de règles strictes ?
C'est la solution qui s'est imposée historiquement, oui.
Puisqu'on ne peut pas se réguler de l'intérieur, encadrons le tout de l'extérieur. C'est là qu'intervient le concept de la loi, la Torah. Mais notre auteur antique dresse un constat d'échec tout aussi sévère là-dessus.
Oui, et pour articuler cet échec, sans rejeter la loi, il utilise au début du chapitre 7 une métaphore juridique puissante sur le mariage.
Comment ça fonctionne ?
Dans le droit de l'époque, le mariage contraint les époux jusqu'à la mort. Le décès d'un conjoint dissout le contrat instantanément, permettant aux survivants de s'unir à une nouvelle réalité. L'argument, c'est que l'humanité a besoin de connaître une forme de mort à cet ancien système de règles pour être libérée.
Le texte marche sur une corde raide quand même, parce qu'il ne dit jamais que l'ancienne loi était mauvaise, si ?
Non, jamais. Ce n'est pas un rejet de l'éthique passée. La technique rhétorique ici, c'est la synchrisis.
La synchrisis ?
Oui, un exercice antique de comparaison. Le but, c'est pas d'opposer le bien au mal, mais de mesurer le bon par rapport au meilleur. La loi est sainte, elle révèle la justice. Mais elle a un défaut systémique majeur.
Elle engendre le légalisme.
Tout à fait. Nos notes montrent comment l'érudition rabbinique de l'époque pouvait sombrer dans une minutie obsessionnelle. Par exemple, il décortiquait la présence d'un double yod, une lettre hébraïque, dans un mot de la Genèse.
Juste pour un détail orthographique.
Oui, à partir de ça, il bâtissait des doctrines entières sur le yetzir, le double penchant de l'homme. On disséquait le texte jusqu'à l'os.
Et le docteur Kinner donne un exemple académique parfait pour illustrer cette impasse. Prenons la phrase « j'ai vu le chat courir ».
D'accord.
Une approche purement légaliste donnerait une analyse clinique, genre pronom personnel de la première personne, verbe au passé composé de perception oculaire, sujet felis domesticus, verbe à l'infinitif de locomotion, bipède ou quadrupède.
C'est techniquement irréprochable.
La grammaire est validée à 100%, mais on a totalement désintégré la poésie, le mouvement et la vie même du chat qui traverse le jardin.
C'est une excellente métaphore. La loi informe l'intellect avec une précision chirurgicale. Elle pose le diagnostic, comme votre radiographie du début, mais elle n'a aucun pouvoir de transformation.
Savoir qu'une action est destructrice ne te donne pas la force de t'en abstenir.
Pire que ça, L'argument de l'auteur va beaucoup plus loin. Il affirme que la loi réveille et amplifie nos pires passions.
Et c'est là que sa psychologie devient percutante. Si la loi est bonne, pourquoi elle provoque une rébellion intérieure? Bon, essayons de décortiquer tout ça.
C'est l'ironie du contrôle mental. Le mécanisme est redoutablement simple.
C'est le syndrome de l'éléphant rose. C'est le raccourci parfait. Si une règle te dit « il est formellement interdit de penser à un éléphant rose »,
ton cerveau ne visualise plus que ça.
Exactement. La règle met un projecteur géant sur l'interdit. Au lieu de te guider vers la vertu, ça crée une fixation sur le vice.
Et cette dynamique culmine à la fin du chapitre 7 dans un passage très dramatique. On entend une personne qui crie « Je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je hais ».
C'est une véritable guerre civile intérieure. Mais qui parle exactement dans ce texte? C'est le grand mystère du « je ».
Ah, les commentateurs se déchirent là-dessus depuis des siècles. Est-ce l'auteur lui-même? Est-ce Adam? Mais l'analyse rhétorique apporte un éclairage décisif. C'est probablement une prosopopée.
Une technique pour parler avec la voix d'un autre personnage, c'est ça?
Oui, pour rendre le récit plus vif. Le théologien Douglas Moo, très cité dans nos sources, pense que ce jeu représente probablement la nation d'Israël sous le joug de la loi.
Et le texte utilise des hyperboles choquantes du genre « je suis entièrement esclave ».
C'était une technique rabbinique courante pour frapper les esprits. Et d'ailleurs, le docteur Kainer fait un pont génial avec la culture gréco-romaine. Il cite la tragédie de Médée d'Euripide.
Médée qui assassine ses propres enfants.
Voilà. Dans un moment de lucidité, elle dit « je sais quel mot je vais accomplir, mais la colère est plus forte que mes résolutions ». Elle incarne le personnage païen, esclave de ses passions.
Et l'audace de l'auteur ici, c'est de prendre l'observateur le plus strict de la loi et de le placer sur le même plan que Médée.
C'est intellectuellement subversif. Pour l'audience du 1er siècle, le choc devait être monumental. L'érudit religieux est tout aussi piégé que la pire criminelle païenne.
Ça anéantit toute prétention à l'autosalut. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Parce que vouloir tout contrôler par soi-même, ça devient obsessionnel.
Tenter d'atteindre la perfection par ses propres forces, ça transforme l'éthique en pathologie, oui.
Nos sources rapportent une petite blague là-dessus. C'est des chercheurs qui parlent du TOC, le trouble obsessionnel compulsif, ou OCD en anglais. Et il y en a un qui dit « Non, c'est pas un OCD, c'est un CDO, parce que les lettres doivent absolument être rangées par ordre alphabétique. »
Elle est très bonne, et elle capture la tragédie du texte. Ce besoin de tout ranger dans des cases finit par dévorer l'individu, c'est un épuisement perpétuel.
Arrivé à ce point de désespoir total, si la philosophie et les règles échouent, quelle est la porte de sortie? Parce que le texte antique propose bien une échappatoire.
Oui, c'est le passage du chapitre 7 au chapitre 8. L'auteur oppose deux écosystèmes, le cerveau de la chair et le cerveau de l'esprit.
Le contraste est radical?
Très radical. Le cerveau de la chair, c'est l'esprit humain limité par ses peurs, confiné à la survie. Le philosophe Philon disait d'eux que leur dieu est leur ventre.
Consumé par l'immédiateté, quoi. Et le cerveau de l'esprit, alors?
Lui apporte vie et paix. Et ça s'appuie sur de lourdes prophéties de l'Ancien Testament, comme Jérémie et Ézéchiel. C'est l'idée d'une loi inscrite directement dans le cœur, et non plus sur des tablettes de pierre.
C'était révolutionnaire pour l'époque, non?
Complètement. Les élites, comme les Sadducéens, pensaient que l'action directe de l'esprit divin, c'était de l'histoire ancienne. L'idée qu'une force spirituelle remodèle les désirs de l'intérieur, ça balayait leur monopole.
Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que concrètement, l'esprit critique moderne pourrait se dire « Attendez, est-ce que c'est pas juste une autre forme de contrôle de soi? Une nouvelle façon de serrer les dents ?»
C'est la question piège. Mais le docteur Kainer clarifie que non. C'est passé d'une logique de performance à une logique d'identité.
C'est-à-dire?
Sous la loi, on essaye d'atteindre la justice à la force des bras. Avec l'esprit, on reçoit la justice comme un statut et on agit en conséquence. L'action morale devient naturelle, organique.
Ça me fait penser à mon analogie de la voiture. La chair et la loi, c'est quand tu pousses manuellement une voiture en panne dans une côte. Tes muscles brûlent, c'est l'épuisement total. La performance est ton seul moteur.
Au moindre relâchement, la voiture te roule dessus.
Exactement. Alors que l'esprit, c'est réaliser qu'un mécanicien a réparé le moteur de l'intérieur. Tu n'as plus qu'à t'asseoir et allumer le contact pour qu'il fasse le travail.
La distinction entre effort externe et puissance interne résume tout. Et pour ceux qui écoutent, la leçon dépasse l'exégèse antique.
Oui, l'accumulation de connaissances ne suffit pas.
On peut lire 100 livres de développement personnel, maîtriser la grammaire antique. Sans transformation intérieure, l'intellect seul est une impasse.
Ce qui m'amène a une pensée assez provocatrice pour terminer. Si la neuroscience prouve que nos cerveaux réagissent bien avant notre intellect, comme face au feu d'artifice.
Tout à fait.
Et si l'auteur antique avait raison de dire que l'autodiscipline pure est vouée à l'échec? Est-ce que notre obsession contemporaine pour la pleine conscience, le biohacking de nos émotions, le biohacking de nos réactions viscérales?
Cette soif de tout monitorer.
Voilà, juste. Est-ce que ce serait pas simplement la version ultra-moderne du piège de la chair que ces textes dénonçaient il y a 2000 ans? Juste une immense illusion de contrôle.
L'obsession du contrôle n'a pas disparu, elle s'est simplement technologisée.
Une belle réflexion à creuser pour ceux qui nous écoutent. Accepter de lâcher prise sur ce besoin de tout maîtriser par nos propres forces, c'est peut-être ça le vrai changement de paradigme.